Et vous êtes toujours à l'écoute du LEM sur Radio Évasion. Notre invité, notre deuxième invité est avec nous en studio, Loïc Lucerne. Bonjour Loïc.
Hey, salut, salut.
Là, il va être question d'un tout autre sujet, c'est celui du Bugalet Braise. Alors Laura...
Qui était un combat aussi.
Oui, oui. Oui, mais qui est un combat de, sur plusieurs années.
Eh oui.
Et on n'a toujours pas l'issue du résultat.
Le résultat, c'est que ça a été un non-lieu quand même de déclarer. Un non-lieu, c'est ça qui a justement provoqué cette réaction d'écrire, que j'ai eu d'écrire sur ce sujet. Enfin, on ne l'a pas présenté encore le sujet, parce qu'en fait, il s'agit d'un recueil de poésie sur le Bugalet de Braise.
Et Laura va nous faire un petit rappel sur les événements.
D'accord.
L'EM, l'émission.
L'intrigue débute le 15 janvier 2004. Le Bugalet Braise coule au large du sud-ouest de l'Angleterre. Ce naufrage a entraîné la mort de 5 membres d'équipage et reste aujourd'hui irrésolu. Une affaire énigmatique entretenue par le silence des institutions chargées de l'enquête. Depuis le début de l'affaire, plusieurs hypothèses sur les causes du drame sont avancées, puis rejetées faute de preuves suffisantes. Les expertises se contredisent et les familles des victimes ont le sentiment qu'on leur cache la vérité. Selon elles, l'enquête menée en France présente de nombreuses incohérences. 13 ans plus tard, toujours aucune réponse. Pourtant, la procédure se poursuit en Grande-Bretagne. En 2017, les témoignages de 2 sous-mariniers français impliquant l'un des sous-marins mis en cause font renaître l'espoir de voir le mystère s'éclaircir. Cet espoir s'est vu rapidement déchu par la thèse officielle. Thèse selon laquelle le sous-marin se trouvait à 200 milles de la zone du naufrage le jour du drame.
Alors Loïc, pourquoi cette envie de réaliser un ouvrage sur la question du Bugalet Braise ?
Comme vous le savez, les auditeurs de Radio Évasion, je suis un ancien marin pêcheur.
Ah ben non, les gens ne savent pas.
Ah, ils ne savent pas ! Mais parce qu'ils n'écoutent pas assez mes émissions, voyons. Non, en tant qu'ancien marin pêcheur, j'ai été sensibilisé évidemment à chaque fois qu'il y a un drame qui se passe en mer, parce qu'on fait partie de la même famille, ça peut vous arriver, enfin bref. Il y a quelque chose qui se passe, quoi, sur le plan personnel. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, lorsqu'il y a un drame, on essaye toujours de savoir pourquoi. Il y a toujours une raison d'insécurité quelque part. Et donc là, les familles, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont attelés à essayer de répondre à la question du pourquoi. Et c'est là que commence réellement l'affaire du Bugalet Braise. Parce que toute l'affaire du Bugalet Braise est basée uniquement sur des mensonges. Mensonges à tous les niveaux. Mensonges des enquêteurs, des flics enquêteurs, mensonges de l'armée, mensonges de l'État, mensonges de la justice, mensonges même du BEA, le bureau d'enquête accident, qui est l'organe officiel enquête organisé par des experts soi-disant, et puis mensonges également d'une certaine partie de la presse parisienne. Enfin, c'était épouvantable. Et donc ça révolte évidemment les gens sur le littoral, parce que tout le monde sait, mais je dis bien tout le monde sait que c'est un sous-marin. Sauf, on ne sait pas lequel. Voilà. Le problème, c'est que c'est un sous-marin inconnu. Parce qu'on...
Américain, hollandais, anglais,
ou français. Ou français.
Moi, personnellement... Parce qu'on sait qu'il y a eu des exercices de l'OTAN durant la période.
Le jour du naufrage, oui, c'était une zone d'exercice connue et archi-connue, hein, qui porte un nom d'ailleurs... Le jeudi de guerre en anglais, enfin un truc comme ça. Et donc on sait très bien qu'il y avait des positions, il y avait des sous-marins sur zone. On sait très bien qu'il y avait des hélicoptères de l'armée avec des radomes sous le ventre qui captent justement la position des sous-marins. Donc tout ça, ce sont des preuves. Personne ne peut dire le contraire. Mais c'est terrible parce que tout le monde peut faire un accident, tout le monde peut provoquer un accident. La seule chose, il faut au moins le reconnaître. Parce que 5 marins bretons, qu'est-ce que ça pèse dans l'histoire d'un État ? Je suis désolé de dire ça, c'est vrai que c'est très, très chagrineux de penser ça, mais ça pèse rien. Et pourquoi le secret défense pour ce genre de choses ? Qui a un secret défense pour des raisons d'État, pour des raisons de sécurité d'un pays par rapport à des sous-marins qui seraient en danger ? D'accord, mais pas dans ce cas-là. Il ne peut pas y avoir secret défense pour ça, ce n'est pas possible.
On parle du fond, du sujet, oui. Bugalet Braise. La forme que tu souhaites proposer, alors en fait, tu nous parles d'un ouvrage qui existe ou qui n'existe pas ? Telle est la question là.
Alors, j'ai une écriture qui existe, mais ce qui n'existe pas, c'est la publication du livre, le recueil, qui va porter comme titre « Le Bugalet de Braise, Un non-lieu sous la mer, ça va être son titre. Et le livre n'existe pas encore actuellement, puisqu'on on vient juste de lancer une campagne de financement participatif de façon à faire appel de dons auprès des gens pour financer les frais du premier tirage. Puisque ce livre va être édité par les éditions du Passavant à Quimper, qui est une toute petite maison d'édition toute nouvelle, et qui n'a pas les trésoreries actuellement, et qui n'a pas les moyens de financer, de s'autofinancer sur les frais de premier tirage, qui est quand même un risque pour une maison d'édition. Il y a deux risques, c'est publier de la poésie, donc sur le plan commercial en France, c'est pas terrible, et puis publier un illustre inconnu non plus, c'est pas terrible non plus.
Ouais, mais un pêcheur poète.
Ah, ben il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a d'autres de ton espèce?
Le pêcheur poète existe
sur les littoraux ou pas?
Oui, j'en ai connu un et qui est décédé depuis. C'est Alain Gégou, qui était un pêcheur de l'Orient, que moi j'ai fréquenté sur zone au large de Belle-Île, un peu en conflit parce que moi j'étais ligneur palangrier, lui était filayeur, donc sur zone ça posait problème, enfin bref, ne savais pas
des conflits
de méthode de pêche, quoi, tu vois, d'occupation de terrain. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il était poète. C'est que quelques temps plus tard j'ai découvert qu'il était poète, et après j'ai adoré son écriture. Donc ce sont des gens qui m'ont influencé, hein, comme Alain Gégou, mais aussi des auteurs plus nationaux, hein, de grandes carrures nationales. Mais je n'en connais pas d'autres. Enfin, il en existe peut-être, mais je n'en connais pas d'autres.
Ce regard de pêcheur-poète, forcément, sur un sujet comme celui-ci, tu dois apporter quelque chose en plus.
Ah ben c'est toi
non,
qui...
Non, mais je sais que t'es modeste, mais j'imagine que là, t'as enlevé ta casquette. Mais justement, ta casquette de pêcheur-poète, tu dois avoir un regard plus qu'affûté sur la question.
Alors justement, c'est un texte, enfin ce sont des textes qui amènent forcément un lexique à la fin, un glossaire, de façon à expliquer quelques termes, parce que j'utilise des termes techniques qui sont des termes très spécifiques dans le jargon du professionnel marin, mais aussi, il y a ça, mais il y a aussi la force, la rage, ou bien la sensibilité par rapport à la mer, parce que tout est lié évidemment par rapport à la mer. Moi, je suis quelqu'un qui écrit sur la mer depuis très longtemps. Bugalet de Braise, c'est la mer aussi, évidemment. Quoi.
Ces poèmes, je voulais savoir, tu les as écrits quand par rapport à l'événement lui-même? Parce que le ton n'est pas forcément le même. J'imagine qu'on doit passer de la stupeur à la résignation et puis à la colère. Quoi.
Bien tout sûr, ça passe à toutes ces étapes. Je n'ai pas écrit au moment du drame, parce qu'au moment du drame, j'étais en pleine action de pêche. J'ai commencé à écrire lorsque... C'est l'affaire qui m'a plutôt fait déclencher, quand je dis l'affaire juridique, qui m'a fait déclencher ça. Et j'avais commencé à écrire quelques textes là-dessus, que j'avais mis de côté. Bon, l'affaire Bugalet-Braise, c'est quelque chose qui a été médiatisé, tout le monde en parlait, très bien. Et puis, à un moment donné, a eu lieu, justement, ce fameux non-lieu. On a décidé que c'était un non-lieu, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, l'affaire est finie. Enfin, fini sur le plan médiatique. Et donc, on ne va plus en parler. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de relancer l'affaire par un autre support, qui est donc la poésie qui n'a jamais été faite, à mon avis. Je ne pense pas qu'il y ait... Si, il y a un poète du Morbihan qui a publié un poème sur le site SOS Bugalet-Braise, qui est un site d'une association pour soutenir l'action du Bugalet-Braise. Mais en termes de publication, je ne pense pas qu'il y en ait eu.
C'est quoi le but de l'ouvrage? Est-ce que c'est
de faire parler,
réanimer un petit peu la quête de vérité, parce qu'on est toujours en suspens? Parce que là, les dernières actualités autour de l'affaire, c'est carrément de détruire le bateau.
Oui, alors c'est ça. On va détruire le bateau, mais on ne détruit pas le bateau. On détruit les dernières preuves, comme ça a été depuis le début.
Alors que l'affaire n'est pas soldée. Je veux dire, on ne sait pas, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire.
On ne sait pas qui. Quel est le sous-marin? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas, voilà. On ne sait pas et on ne saura jamais, ou si ce n'est que si c'est peut-être... Parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent et qui se taisent. Alors peut-être qu'il y aura quelque part quelqu'un qui pourra peut-être un jour dire « maintenant je suis en retraite, j'ai ça sur ma conscience, peut-être que on peut espérer ça, mais ce sera la seule issue. » Alors mon but, c'est qu'on n'oublie pas. Voilà. Pourquoi j'écris ce livre? C'est pour qu'on n'oublie pas cette histoire, qu'on n'oublie pas ces cinq marins bigoudins.
Est-ce que tu peux nous en faire part d'un extrait?
Oui, je peux te faire un petit extrait. tu veux que je fasse cet extrait, tu veux pas que je te fasse un petit...
Ah bah si, moi, j'avais celui-là que je trouvais magnifique, mais si t'en as un autre à proposer, vas-y, hein, je suis preneur.
Écoutez-moi ce silence. Écoutez ce murmure. Il vous dit la vérité. Écoutez cette histoire. C'est l'histoire de 5 marins. Des marins comme tant d'autres, 5 marins sans importance. Écoutez ce silence. Il amène un vent de folie à soulever tout un pan de l'histoire, comme les fonds noirs de Tirly en échappés de couleurs. Il amène un vent du nord à soulever tout un pan de malheur à fouiller sous les fonds de la mort. Silence. Silice, sable et poussière. Un silence si lourd qu'il ne peut remonter. Silence de fond, silence de plomb. Un silence qui voudrait crier, un silence à hurler à tous les vents, à hurler à la face de l'océan jusqu'à dégueuler son refus, hurler à la fausse parole pour libérer sa colère, hurler sa détresse jusqu'à la nuit, jusqu'à la mort. Écoutez ce silence. C'est le bruit de la mer qui nous dit la vérité.
Là, c'est quel passage qui est plus précisément évoqué ? Est-ce que ça te rappelle un moment peut-être particulier quand tu as découvert cette affaire ?
Ce texte évoque évidemment, on parle du mot silence, c'est-à-dire que silence, c'est non-dit, on ne dit pas la vérité. On parle de silence et de vérité dans ce texte, c'est ça. C'est on ne dit pas la vérité. Tout est bloqué à cause de ça. Et tout le monde est complice, enfin quand je dis tout le monde, tout le système judiciaire est complice de cette histoire-là. Comme je disais, des enquêteurs, des experts, de la justice, des hommes politiques, enfin bref, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire-là. Voilà. C'est ça qui me perturbe le plus.
Moi, il y a quelque chose en préparant un petit peu ta venue. Il y avait un sujet qui passait presque au second plan, qu'on oublie presque, tant les atermoiements dans les différentes successions de l'affaire sont... Enfin, on n'avance pas, on saura jamais, mais on sait par contre la violence du choc. La violence du choc, ce qui s'est passé ce jour-là, en 2004.
On a les preuves matérielles.
En 37 secondes, le bateau est écoulé. Voilà. C'est quelque chose d'incroyable.
Ça ne peut pas arriver. Un bateau de cette importance, même quelle que soit la taille des bateaux, d'ailleurs, ce sont des bateaux qui ont des cloisons étanches, des compartiments. Lorsqu'un bateau, même quand il chavire, il y a forcément des bulles d'air qui restent coincées quelque part. Donc il faut attendre que ces compartiments remplis d'air, que l'air s'évacue pour qu'il sombre. Et c'est que lorsqu'il a disparu de la surface qu'il commence vraiment à sombrer. Mais avant qu'il disparaisse de la surface, il faut vraiment un certain temps et même voire des heures. Et là, c'est en 37 secondes. Donc, ça ne peut pas être un naufrage normal. C'est pas possible. D'ailleurs, la preuve, c'est que le type qui a capté le message, il a entendu son copain en disant « Bien vite, bien vite !» Et c'est tout. Il n'a pas eu le temps de dire autre chose. Il a donné sa position et ça rate là. C'est-à-dire que quelques secondes plus tard, il n'existait plus.
Ouais. Voilà. 30 secondes.
Ah oui, c'est ça. Plus rien. Ouais.
Loïc, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'on peut parler de recueil de poèmes ? Est-ce que c'est le mot
c'est un recueil
de poèmes ?
Bah oui, un recueil. Ouais. Comment tu appellerais un ? Oui.
Je sais pas, oui, je sais pas. Parce que après ce sera un bel objet.
Alors c'est un objet, oui, c'est ça. L'éditrice a voulu absolument que ça soit un bel objet. C'est un beau livre, beau papier, bien relié, bien cousu. Donc d'où le prix. Hein. Je trouve que évidemment 19 € pour la plupart des gens pour un petit livre de poésie, ça peut faire cher. Mais c'est un objet. Voilà, c'est un livre. C'est un livre qu'on va garder.
Avec des illustrations.
Alors il y a donc, je disais tout à l'heure, il y a 4 chapitres dans ce livre, 4 chapitres par rapport à 4 sujets, enfin 4 sensibilités, et chaque chapitre est ouvert par une illustration en noir et blanc de Weg. Weg qui a été l'illustrateur de mon premier livre, Ok Ménès. Et là c'est en noir et blanc pour le coup.
Et tu as eu des premiers retours, un premier accueil.
Très très bon, très bon accueil.
Des gens du pays Bigoudin.
Oui, alors pays Bigoudin un peu moins, parce que bon, c'est une affaire très lourde à porter. Il y a eu des divisions, c'est très très chaud dans la mémoire des gens. Mais bon, je vais faire un récital à Loctudie la semaine prochaine. Là, je fais un récital au Daddy Bazzi à Châteaulin samedi prochain à 17h. Daddy Bazzi, hein, c'est dans le quartier Saint-Louis, là, un peu plus bas que le lycée Saint-Louis à Châteaulin. Mais j'ai un accueil formidable. Il y a des gens d'un peu partout qui répondent à la souscription.
C'est ça.
Il y a un réel soutien parce que l'histoire a vraiment marqué l'esprit des gens. Quoi. C'est une grosse, grosse histoire. Pas que dans le monde maritime, d'ailleurs.
Parce qu'au passage, quand même, faut le citer aussi, c'est si on soutient ton projet de livre, on soutient aussi également la naissance d'une maison d'édition.
Voilà. Alors ça,
on peut en parler un petit peu de la maison d'édition qui t'accompagne sur ce projet.
Oui, alors je l'ai nommé, hein, c'est les éditions du Passavant, Maude Sévin, qui est une professionnelle qui arrive de Paris, qui a travaillé avec les grandes boîtes de Paris. Donc c'est une vraie professionnelle et qui a une sensibilité, qui veut lancer un projet d'édition en Bretagne sur la poésie en Bretagne, contemporaine bien sûr. Alors c'est quand même un gros, gros risque financier parce que la poésie en France est un peu le parent pauvre de la littérature. Et sur la Bretagne, ça restera un petit peu, quoique c'est très riche la Bretagne, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est son but. Et donc, elle a déjà un auteur qui s'appelle Henri Billon, qui habite dans la région du Cap. Et il y a Gérard Camoin, que peut-être les auditeurs connaissent ici, parce qu'il a entendu
sa voix. Les gens connaissent Gérard Camoin, l'ont déjà entendu.
Oui, on a entendu sa voix. Je viens de l'apprendre, va être publié également chez Maud, aux éditions du Passavant. Voilà.
Tu ne révèles pas des indiscrétions, là, au moins.
C'est un scoop de... c'est un scoop. Voilà. J'envoie un scoop de radio, c'est gratoche. Hein.
Merci Loïc.
Oui, alors juste pour finir, pourquoi j'ai choisi la poésie pour illustrer ce sujet, c'est parce que moi je considère que la poésie c'est une liberté, c'est une véritable liberté d'écriture. On peut même inventer des mots, on se fout totalement du mode grammatical, on fait ce qu'on veut, la ponctuation, enfin on fait ce qu'on veut, à partir du moment que ça marche évidemment. Et cette liberté, moi je l'associe à cette liberté en mer. En tant que marin pêcheur, il y avait une très très grande liberté dans cette profession. Malheureusement, cette liberté tend à disparaître depuis à peu près 25 ans, depuis qu'il y a des règlements européens, depuis qu'il y a une espèce de Big Brother qui s'est installé sur le monde maritime. Il y a aussi des raisons, hein, les raisons de conflits interethniques, enfin d'État, il y a des conflits...
Les conflits géopolitiques.
Géopolitiques, voilà, les ressources de la mer, etc. Mais il y a la liberté en train de disparaître. Et je considère que la liberté, c'est quelque chose de très, très important.
Alors, Sébastien est toujours avec nous dans les studios. Tu es originaire du secteur ?
C'est ça, ouais.
Du pays Bigoudin, c'est quelque chose qui te parle ? Il t'a donné envie là, de participer à sa souscription là ?
Oui, beaucoup. Mais j'ai déjà beaucoup entendu parler du Bugalet de Braise. Après, ouais, c'est mystérieux comme beaucoup... on parle, je sais pas, c'est bizarre.
Qu'est-ce qui est bizarre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mystérieux,
l'accident quoi.
Non, c'est pas mystérieux, c'est malheureusement c'est arrivé très très souvent qu'il y ait eu des accrochages entre un sous-marin et un chalutier. C'est quelque chose qui est répertorié, hein, dans les histoires. Mais ce qui est mystérieux, c'est le comportement. Voilà, c'est le comportement des intervenants. C'est ça qui est quand même très mystérieux. Ouais.
Pourquoi ils cachent?
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a à cacher ?
Moi, je pense, c'est mon avis personnel qui ne m'engage que moi. Je suis pratiquement même sûr que le rubis sous-marin français a un rôle à jouer dans l'histoire. Personne n'en parle, évidemment, mais bon, moi, je pense que c'est ça, parce qu'il y a des preuves. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'y a qu'à lire les ouvrages des journalistes, c'est hallucinant.
Toujours est-il que si vous voulez contribuer, parce que l'objet... va contribuer aussi à la mémoire de cet événement, pour pas qu'on oublie.
Voilà, c'est ça.
Ça va faire bientôt, ça fait 15 ans.
Alors, on va fêter, entre guillemets, l'anniversaire des 15 ans du naufrage en janvier prochain. 2019. Et donc, le livre va sortir en début d'année. Pour les souscripteurs, le livre va sortir avant les fêtes de Noël. Et sera présent dans les librairies au mois de janvier 2019 pour justement célébrer ça. Et on fera une petite tournée de récital là-dessus.
Eh bien, merci beaucoup Loïc. Et le financement peut se faire via la plateforme participative Kengo.
Voilà, c'est ça. Ou bien l'adresse postale à Quimper de Tu veux que je te
des éditions du passé avant. Voilà. Mais on mettra ça en lien.
Oui, 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 voilà. Bien sûr.
Ben, merci beaucoup, Loïc.
Merci. Salut, salut.
L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.